Merci d'être à l'écoute des programmes de Studio Kalangou. Il vient d'être à 17h. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition d'information de ce jeudi 31 août 2023. Voici les titres. À la une, le ministère des Affaires étrangères du Niger annonce que l'ambassadeur de la France au Niger ne jouit plus des privilèges diplomatiques depuis le 28 août, date de l'expiration du délai à lui donner pour quitter le territoire nigérien. Des précisions dans un instant. Ce 31 août, c'est la journée africaine de la médecine traditionnelle. Un membre de l'association des tradipraticiens du Niger est à suivre dans ce journal. Le magazine du jour parlera de l'importance qu'aura la muraille verte dans la lutte contre la dégradation des terres à Maradi. Par lettre en date du 29 août, le ministère des Affaires étrangères du Niger a informé le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français de l'annulation des cartes diplomatiques et des visas de l'ex-ambassadeur de son pays au Niger et de sa famille. Dans la lettre, le ministre des Affaires étrangères du Niger indique que la question de l'agrément de l'ambassadeur de France est irrévocable et rappelle qu'au terme du délai de 48 heures donné aux diplomates français pour quitter le territoire national qui a expiré depuis le 28 août dernier, l'intéressé ne jouit plus du privilège et immunité attaché à son statut de membre du personnel diplomatique de l'ambassade, rapporte l'ANP. Le gouvernement burkinabé a adopté hier au Conseil des ministres un projet de loi autorisant l'envoi d'un contingent militaire au Niger en cas de recours à la force par la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel comme envisagé par les chefs d'État de l'organisation communautaire. Sans être bellicite, il faut dire que cet engagement se fait pour prévenir et mener au mieux notre lutte contre le terrorisme et répondre aux aspirations profondes des masses populaires burkinabées, ce qui touche à la sécurité du Niger touche fondamentalement à la sécurité du Burkina Faso, a indiqué le ministre d'État de la Défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly, au sortir du Conseil des ministres. Depuis le 31 août 2000, il est consacré sur le continent la Journée africaine de la médecine traditionnelle afin de reconnaître la contribution essentielle de celle-ci à la santé et au bien-être de plusieurs générations africaines. Cette année, il n'y a pas d'activité particulière selon un membre de l'association des tradipraticiens du Niger. On écoute Ilyasu Aguitan, secrétaire général du bureau régional des tradipraticiens du Niger. Il est interrogé par Leila Nouhou.
C'est une journée très importante pour les tradipraticiens parce que c'est la journée africaine de la médecine traditionnelle. Nous la fêtons chaque année. Donc, on ne devait pas déroger à cette fête, bien que cette année, comme vous savez, les événements qui se sont passés, le changement de régime, a fait qu'il n'y a eu aucune manifestation. Généralement, nous fêtons ça. Il y a le ministre ou le représentant du ministre qui arrive et nous faisons une ouverture des festivités vraiment très importantes et nous terminons par une exposition. Mais cette année, comme vous l'avez constaté, il n'y a pas vraiment quelque chose qui s'est passé. Le ministre a fait son discours hier nuit, la veille du 31 août, comme d'habitude. Donc vraiment, nous sommes au regret que cela s'est passé de cette façon, mais vu les circonstances, donc nous pensons que les choses vont se relancer l'année prochaine, Inch'Allah.
Depuis quelques jours, il n'est pas rare de rencontrer des personnes avec des yeux rouges, d'autres portant des lunettes noires pour se cacher les yeux larmoyants. C'est une épidémie de conjonctivite, selon Dr Saad Ilyasu, responsable du Centre de santé intégrée de Zaria 2. Pour elle, cette maladie est saisonnière et n'est pas dangereuse si elle est bien traitée. Elle est au micro de notre correspondant à Maradi, Mohamed Maman.
C'est vrai, on est en période hivernale. On a de plus en plus de cas de conjonctivite qu'on appelle les conjonctivites allergiques ou bien les conjonctivites saisonnières. Ces différents types de conjonctivites sont surtout causés par des allergènes. Ça peut être aérien, c'est-à-dire la poussière. Et ça peut être également les scombres d'animaux qui peuvent être en contact avec les yeux des personnes pour entraîner ces inflammations de l'œil qu'on appelle conjonctivite. Il y a surtout la douleur, un picotement au niveau de l'œil. L'œil devient rouge et quand ça évolue, il y a même des larmoiements et ça gratte aussi. On peut en avoir chez les enfants, également chez les adultes. C'est les colures antihistaminiques contre l'allergie qu'on prescrit. La prévention, ça serait bien de porter des verres. Elle est contagieuse quand la maladie a évolué sans traitement.
En bref, la situation humanitaire au Niger demeure préoccupante avec 4,3 millions de personnes, principalement des femmes et des enfants, nécessitant une aide urgente, rapporte le Programme alimentaire mondial dans un rapport publié le 29 août. Selon les chiffres récents, 3,3 millions de personnes sont déjà en proie à une insécurité alimentaire grave, tandis que 7,3 millions risquent de s'y enfoncer davantage. Cependant, la crise politique en cours aggrave encore la situation, malgré les défis. En août, seulement 1,2 million de personnes ont bénéficié du soutien d'urgence et du renforcement de la résilience du PAMA. La suite de cette édition, le collectif des associations pastorales du Niger Antenne Agadez se réjouit de la décision des nouvelles autorités relative à la fête de la cure salée en initiant uniquement une caravane de vaccination des animaux. Pour Omar Ouyeli, président du dit collectif, au niveau de la région d'Agadez, le dépistage et la vaccination de leur cheptel est bien pour les éleveurs. Il plaide aussi pour la région de Tawa. Il est interrogé par Moussa Maman.
Ça tombe à pic parce que pour nous, les éleveurs, quand on dit même la fête, c'est pas la fête qui nous intéresse tellement. Ce qui nous intéresse, c'est la vaccination ou le dépistage des maladies du cheptel. Donc quand l'État, même si elle a annulé la fête, nous, cela nous réjouit. Quand on sait que ce qui est l'essentiel, on va le faire. On va faire une caravane de vaccination qui va aller vacciner tous les sites qui étaient retenus auparavant. Et maintenant, encore fait même un dépistage que peut-être dans les cures salées antérieures, on ne faisait pas ce dépistage, on ne faisait que la vaccination. Donc pour nous, c'est très bien, vraiment, nous nous réjouissons aussi. Nous avons senti que les régions qui ont été citées pour la caravane de vaccination et le dépistage, on a cité trois régions, Agadez, Zender et Maradi. Nous avons senti que Tawa n'était pas concernée, alors que Tawa même est co-organisatrice de la cure salée, parce que nous nous faisons frontière avec la région de Tawa, une grande étendue. Et donc, pour nous, vraiment, nous voulons que l'État ou le ministère de l'élevage, en tout cas, arrive à corriger cela, que Tawa soit aussi concernée.
Les producteurs de la commune rurale de Taxar, département de Baleyara, utilisent le compost pour améliorer leur rendement. Les femmes du groupement La Boussitari du village de Winditon fabriquent du compost à base de déchets organiques. Hadiza Toussouli explique comment elles fabriquent le compost au micro de Seydab de Winditon. Pour faire le compost appelé Bokassi, on cherche de la boue, du fumier, du charbon, de la cendre, du son, ensuite un demi-kilo de levure chimique et 1 kg de sucre. Pour faire le mélange, on met 30 litres d'eau et on remue bien. Après cette étape, on ferme le contenu avec un couvercle en seco. On laisse reposer pendant 4 jours. On remue le contenu de temps à autre. Le quatrième jour, l'on observe une petite couche au-dessus. L'on collecte environ 1 kg qu'on mélange avec 1 kg de sucre et 20 litres d'eau et on laisse au repos pendant 7 jours. On n'oublie pas de bien remuer le contenu chaque jour. Et au bout de 9 jours, notre compost est prêt pour l'utilisation. À l'occasion de son déplacement en début de cette semaine dans le département de Godmaria, le gouverneur de Difa, le général de brigade Ibrahim Bagdoma, a procédé au niveau du centre d'accueil des repentis de Boko Haram, la réintégration de 117 repentis de Boko Haram, dont 61 hommes et 13 femmes et 43 enfants de leur communauté respective. Sur cette cérémonie de réintégration, quelques citoyens de Ménessorwa expriment leur point de vue au micro de Maman Idrissa.
Ces personnes qui vont être réintégrer au sein de la population, moi, à mon avis, ce n'est pas un problème parce que les actes qu'ils ont commis, eux-mêmes le regrettent aujourd'hui. Nous avons entendu beaucoup d'entre eux disant qu'ils regrettent d'avoir rejoint le groupe Boko Haram. Et aussi, cela permettra aux autres qui y sont encore de déposer les armes et rejoindre leurs concitoyens. Car ceux qui se sont repentis aujourd'hui vivent en symbiose avec la population. Donc, cela n'est pas un problème.
C'est important parce que peut-être avec leur arrivée, les conflits vont s'atténuer. Et c'est bien que l'État prend cette décision. Du coup, ils sont les bienvenus. On leur donnera du travail. Et à mon avis, c'était la meilleure décision qu'ils pouvaient prendre.
S'ils arrivent, je lance un appel aux jeunes de bien cohabiter avec leurs frères qui se sont retrouvés dans cette situation difficile. Comme Dieu les a ramenés sur le bon chemin, c'est fini.
Ce fait divers dans un village dénommé Nawala, situé au sud de Matamé, à une quinzaine de kilomètres, le corps d'une femme âgée d'environ 35 ans et mère de 5 enfants a été découvert pendu à un arbre dans un champ de mil. L'une des raisons avancées pour ce suicide serait l'état mental de la victime. Elle a séjourné dans un hôpital psychiatrique à Kano, au Nigeria, pour des soins. Moussa Dantani, préfet du département de Kanché, explique au micro de Habou Serki Saleh.
Effectivement, le 28 du mois d'août, dans le compte-rendu que la police nous a envoyé, il avait été fait cas d'une femme qui était morte suite à une pendaison. Selon aussi les investigations et l'expertise, il s'agit d'une femme qui présente une démence. Elle a même été une fois hospitalisée à Kano. Donc un matin, elle était partie au champ pour retrouver son mari. Elle n'a pas pu y accéder. Elle était restée, elle s'est pendue à un arbre et c'est là où elle a trouvé la mort. Elle est âgée de 35 ans, elle est mère de plusieurs enfants. Vous savez, la situation sociale, souvent, les démences-là, elles peuvent être dues à des problèmes de foyer. Et surtout que on dit que cette femme était partie au champ rejoindre son mari. Donc ça veut dire qu'à cet instant-là, elle ne présentait pas cette situation de problème mental.
Le magazine de ce journal, le programme de la Grande Muraille Verte, est en bonne place dans les stratégies de lutte contre la dégradation des terres à Maradi. Selon le directeur régional de l'environnement, même si les activités n'ont pas totalement démarré, elles viennent renforcer les pratiques déjà existantes comme la régénération naturelle assistée. Pour le colonel Lawali Soumela, elles concernent plus les zones du nord en proie à la désertification. Il est au micro de Mohamed Maman.
La Grande Muraille Verte implique une activité de reboisement sur toute la ligne où elle va passer. Par exemple, au nord de Guidan-Rumji, dans la zone de Dakoro-Mieyi, jusqu'au nord Tessawa. En ce qui concerne la région de Maradi, il y a la plantation d'arbres. Dans l'ensemble des zones où il y a les réserves forestières, il y aura des stratégies qui seront mises en place pour préserver ces espaces. Deuxièmement, le désherbage moderne permettra la pousse de nouvelles espèces, la construction de demi-lunes, plantation d'arbres. À travers la Grande Muraille, il y a l'exploitation des agrumes, non seulement pour verdir le milieu, mais également pour la production de fruits. Les feuilles des arbres qui peuvent être consommées, ou des arbres par lesquels on peut extraire de l'huile ou faire des jus. Tout ceci sont des stratégies impliquées dans la Grande Muraille. C'est cela que l'on veut renforcer. C'est la valorisation des arbres que nous utilisons, soit pour la consommation, la médecine ou autre. Ces aspects vont être renforcés et développés. En tout cas, toute autre technique arboriculturelle qui peut contribuer de façon qu'il y ait des arbres sur la ligne. Alors, la Grande Muraille permettra de renforcer ces aspects.
Monsieur le directeur, comment comptez-vous effectuer ces travaux?
Nous sommes dans la phase d'exécution.
Ces travaux ont-ils déjà démarré?
Bon, chaque pays a sa stratégie d'exécution. Il y a des règles qui sont établies. Les bailleurs de fonds, chacun prend un domaine précis qu'il va appuyer. Cela concerne tout le Sahel. C'est notre service qui est à l'avant-garde, puisque l'agence même de la Grande Muraille est sous l'autorité de notre ministère. Cette initiative, en dehors même de son aspect environnemental, comporte également l'aspect agriculture. Ce sont des techniques culturelles qui vont être développées et qui ne vont pas polluer l'environnement.
Est-ce que ces travaux prévus ont débuté dans nos zones?
Je dirais que les travaux n'ont pas effectivement commencé. Mais la mise en œuvre donc de la Grande Muraille, ce sont des techniques qui avantagent l'environnement qui seront renforcées. Elles se font avant même le désherbage moderne, les plantations d'arbres et des demi-lunes à travers un fonds ont été réalisés dans la zone de Kornaka.
Ici prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, les journaux en langue nationale. À partir de 18h15, le forum de Studio Kalangu présenté par Rafika Taher qui parle de la polygamie et de comment les co-épouses doivent cohabiter pour le bonheur de la famille. N'oubliez pas, réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement et le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store.